Seigneur, merci parce qu'effectivement, ce matin, tu nous rappelles que tu es Dieu, que tu règnes et que, au-delà de nos incompréhensions, de tout ce que, ouais, qui nous dépasse, tu restes celui qui est, celui qui veut être proche de nous et qui veut venir remplir nos vies de sa présence. Tu veux infuser ta vie dans la nôtre. Et nous voulons que ce moment soit encore un moment où nous pouvons nous arrêter, prendre le temps de penser avec toi, pour que tes pensées deviennent les nôtres, pour que nous puissions te rejoindre, toi qui es la vérité, nous associer à ta façon de voir, en nous rappelant que tu viens en nous et que c'est toujours de l'intérieur que tu veux nous enseigner. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Et parle-nous maintenant par ta parole. Amen. Amen. Comme Daniel l'a rappelé, je pense, j'étais bien sûr moi aussi interpellé par tout ce que on a pu voir, entendre au sujet des événements planétaires, de part et d'autre, effectivement, beaucoup de choses qui se passent. On en parlait jeudi soir aussi ensemble au partage chez la famille Pardial. Et puis ce rappel, hein, je leur citais cette phrase du poète Paul Claudel qui disait à qui on demandait mais où est Jésus au milieu de ces événements, quoi, hein, c'était pas cela parce que c'était à une autre époque, mais et il disait Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance. Il n'est pas venu l'enlever, il est venu la remplir de sa présence. En venant sur terre et puis en portant sa part aussi, bien sûr, de souffrance. Alors, c'est pas une explication, c'est pas une... ça change rien, hein. Mais ça change tout, parce qu'il est là, au milieu, et puis il veut remplir chaque chose de ça. Et puis, l'autre conséquence pour moi dans ma réflexion de voir ces choses violentes, soudaines, imprévues, et je pense là en particulier au Japon, qui arrive à un peuple, on pourrait dire, qui pouvait penser, comme on peut le penser ici, que tout est organisé, tout est prévu. Hein. Quand il y a eu ces milliers, ces dizaines de milliers de morts à Haïti, on sentait que tout le monde disait, bah, c'est un peu normal, hein. Ils ont rien n'est préparé, ils sont pas organisés, et puis il peut y avoir cette idée un peu supérieure que... Ben, ce genre de choses pourrait pas arriver chez nous, même s'il y avait un tremblement de terre, parce que nous, quand même, hein, on maîtrise, on a la technologie, on est plus riche. Et puis on voit comment ben, ce pays-là, si un pays est organisé, c'est celui-là. Au niveau richesse, ils sont bien placés, au niveau organisation, et d'ailleurs on voit comment ils font face, hein, c'est extraordinaire. Mais pourtant, ben voilà, l'homme maîtrise pas tout, et puis ça nous est rappelé de façon dramatique. Et ça me rappelait pour moi dans ma réflexion par rapport aussi à tous ces textes bibliques qui nous rappellent que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Et paradoxalement, ça, et attention, comme a dit Daniel, c'est pas de façon indécente en dire ben, c'est super pour nous, hein, mais ça m'a fait du bien de me rappeler cette réalité. Parce que je m'aperçois régulièrement que je passe une bonne partie de mon énergie à lutter contre des problèmes, je parle là en tant que croyant, hein, dans ma vie personnelle, qui sont des problèmes qui sont pas les bons. Je me bats contre des choses avec lesquelles je devrais pas lutter si j'étais dans la bonne perspective. Et c'est pour ça que les solutions sont tellement difficiles à trouver. Parce que quand la question est mal posée, c'est difficile de trouver une bonne réponse. Si mon problème principal, c'est pourquoi j'ai pas d'ailes pour voler comme les oiseaux, et je passe ma vie à chercher une réponse à cette question, bien sûr que c'est une question théorique intéressante, mais je vais passer à côté de la réalité dans beaucoup de domaines, parce que j'ai pas été fait pour voler, puis c'est comme ça. Hein. Même s'il n'y a aucune mauvaise question dans un sens. Alors j'aimerais qu'on prenne un passage qui va être notre support ce matin, la plupart d'entre vous le connaissez, mais dans Hébreux chapitre 11, verset 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de décrire ou de nous dresser une galerie des portraits des héros de la foi, hein. Des tas de gens comme vous et moi, donc avec leurs défauts, leurs incapacités, leurs faiblesses, leur égoïsme, des gens normaux, mais qui à un moment dans leur vie ont décidé de suivre Dieu par la foi et ont fait avec Dieu des choses assez extraordinaires. Et puis certains ben, ont vu, et puis d'autres qui ont fait aussi le même choix, et rappelez-vous à cette époque-là, on allumait les chrétiens dans les jardins de Rome pour en faire des torches vivantes, ils étaient mangés par les lions, ils étaient découpés en morceaux, donc tout cela aussi vivait par la foi, et puis n'était pas délivré. De la même façon que c'était quelque temps après, bien sûr, mais l'Église avait prié pour Pierre, et puis Pierre était sorti de prison, hein, dans les actes, et puis l'Église a prié pour Jacques, aussi un apôtre, et puis on lui a coupé la tête. Donc pour cette catégorie-là, ceux qui voient pas la délivrance, ceux qui voient pas la victoire, le texte continue et dit « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. » Ah zut, alors il y a tromperie. On avait promis quelque chose et on ne l'a pas reçu. Hein. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et on va s'arrêter après sur tous ces termes. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Je veux juste préciser, avant qu'on avance dans ce sujet, il n'est pas question ici de dire bah, « Vous souffrez sur terre, tant pis, ça ira mieux au ciel ». C'est pas du tout cette idée-là. Ça, c'est pas ce que la Bible enseigne. On est sur terre pour y vivre, et on a un temps à y passer, et on a les pieds réellement sur terre, et on fait face aux situations réelles. Donc c'est pas juste de mettre, comme dit l'expression populaire, un cataplasme sur une jambe de bois, ou juste cacher les choses, ou faire l'autruche, non. Nous sommes sur terre, nous y vivons notre vie, et Dieu l'a voulu ainsi, et il y a de très bonnes choses dedans, et on doit les faire. Mais c'est plutôt dans quel état d'esprit je vis sur terre. Hein. Quelle est ma vision, ma compréhension dans ce moment de temps qui est relativement très long et très court, hein, selon où on en est surtout. Très long, apparemment, on a l'impression quand on est enfant, plus court plus on vieillit. Il paraît très très court quand on est encore plus âgé. Hein, mais enfin, l'espace d'une vie sur terre. Si je construis, si je bâtis, si je vis au quotidien, avec cette idée, peut-être pas formulée, mais ben, le but de ma vie, c'est de m'installer sur Terre, parce que, hein, avec cette idée que je vais y vivre pour l'éternité, d'une certaine façon. Bien sûr, on sait tous qu'on est mortel et fini, mais en même temps, nos actes, nos façons de faire, souvent démontre que dans notre logique, ce qui sous-tend nos actions, c'est « je veux m'installer ». Et donc, si je suis quelqu'un qui est sédentaire, j'ai des problèmes de sédentaire. Si vous êtes propriétaire d'une maison, ben, vous devez déjà payer les impôts sur la maison, vous êtes responsable de la toiture, puis s'il y a une maison, en général, il y a du terrain autour, donc il faut y mettre ou pas mettre des choses qui poussent ou qui poussent pas, il faut les entretenir, il faut repeindre la façade, il faut changer les joints quand l'eau passe au travers. C'est votre maison, vous en êtes propriétaire, vous vous y installez dedans. Pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle des randonnées avec le sac sur le dos, là, je sais plus comment le nom, vous partez, il y a un nom pour ça, hein, du trek ou des choses comme ça c'est en anglais, mais il y a d'ailleurs un mot français, hein, pas grave. Hein. Et là, votre optique est différente, parce que vous savez que vous partez d'un endroit, votre but c'est d'arriver à un autre endroit, et il va falloir vivre entre ces deux points. Et vous savez aussi que vous allez vous déplacer en portant sur le dos ce dont vous avez besoin. Et là, quand vous faites votre sac, tout devient important. Je prends ça ou je prends pas? C'est lourd, c'est pas indispensable. Non. je prends ça ou je prends pas. Oui, de l'eau, en tout cas, minimum, j'ai besoin. Okay. Ou quelque chose pour boire. Et puis, chaque chose va être examinée dans cette optique-là. Je suis en voyage. Je vais d'ici à là. Et puis, bien sûr, selon le voyage, on se prépare. Hein. S'il fait chaud, s'il va faire froid, s'il y a des marécages à traverser ou non, des rivières ou non, s'il y aura des ponts à construire. Si... Et puis, je vais essayer de m'équiper, mais toujours avec cette idée, il va falloir que je le porte. Donc, c'est pas Thierry Carmel, vous connaissez un peu ces choses-là, hein, et d'autres. Donc, peut-être il y a des choses que j'avais pensé emporter, puis au bout d'un jour de marche, le soir, vu le poids sur mon dos, je me dis, en fait... Peut-être que ce magnifique presse-papier en albâtre, j'en ai pas vraiment besoin. On va le laisser là. Et puis, cette colonne que ta mère t'avait offerte là aussi. Parce qu'on est dans cette logique-là. Alors que quand on habite quelque part avec une mentalité de résident, ben, on entasse. Pourquoi ? Ben, parce qu'on a une maison, et puis on rajoute, et puis on remplit. Et puis, plus la maison est grande, d'ailleurs, et plus il y a de choses, vous le savez tous. Hein. Si en plus vous avez une grange, alors là, c'est terrible. Si vous en avez deux, si vous avez un champ, si vous avez deux garages, hein, t'as occupé l'espace. Mais toutes ces choses-là sont vraies dans nos vies chrétiennes. Bien sûr, je vis sur terre, j'ai les pieds sur terre. Je dois vivre. Hein. Il faut manger, dormir, se déplacer, élever des enfants, assumer un travail, etc. Donc on n'est pas en train ici de dire ben, en tant que chrétien, on va tous se retirer sur le sommet d'une montagne, attendre que Jésus revienne comme ça, avec une petite assiette derrière la tête. Non. On a ce voyage à faire. Et puis c'est un magnifique voyage avec des coups durs, des moments difficiles, mais avec des moments extraordinaires qui nous remplissent de joie aussi. C'est pas quelque chose de funèbre. Hein. Mais je suis dans une mentalité de voyageur et étranger sur la terre. Il y a les deux aspects, voyageur et étranger. Mais les deux sont liés. Hein. Parce que quand on est en voyage, on n'est plus chez soi, même si c'est dans son pays, c'est quand même pas pareil que d'être dans sa maison. Et puis plus le voyage dure, plus on réalise qu'on n'est pas chez nous. Et je pense, vous le savez tous un petit peu, moi je le sais assez bien parce que j'ai vécu plus de la moitié de ma vie hors de mon pays et dans plusieurs pays différents. Forcément, en tant qu'étranger, on a un autre regard sur les endroits où on passe par rapport aux gens qui y vivent. Moi, il m'a fallu quitter la France à passer 20 ans et puis vivre ailleurs pour m'apercevoir que... Pardon, pas la France, le sud de la France. C'est pas pareil. Quand je vais à Paris, je suis à l'étranger, vraiment. Hein? Mais... Pour m'apercevoir que tout le monde fait pas la sieste l'après-midi, que tout le monde s'arrête pas de travailler à midi pour reprendre à 2 heures, que tout le monde est pas le soir sur sa terrasse jusqu'à 10 heures du soir pendant des heures à discuter parce qu'il fait chaud. J'ai jamais réfléchi à ça. La vie normale, c'était celle-là, parce que c'était la mienne. Hein. Et puis, sur d'autres choses, souvent les étrangers venaient et puis disaient, enfin, des étrangers que je rencontrais, me disait, ah oui, vous les Français, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et puis je dis, de quoi il parle ? On n'est pas comme ça, c'est pas vrai. Il m'a fallu vivre à l'étranger pour me dire, en voyant de l'extérieur le pays d'où je venais, tiens, c'est quand même, ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Je pouvais pas le voir sans avoir quitté ce pays. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous faites un survol des personnages de la Bible, tous sans exception, depuis Adam jusqu'à Paul, en passant par Jésus, etc., etc., tous, Dieu au moins un temps les a sortis de leur pays, géographiquement. Jésus a été en Égypte, David a dû fuir un moment, Paul aussi a été en Arabie, dans d'autres endroits, Jacob aussi, etc., etc., tous. Hein. Parce qu'il semblerait que c'était quand même quelque chose de très important pour justement pouvoir vivre avec cette... ce regard sur nos vies, hein, on peut penser différemment, on peut vivre autrement. Et il faut se rappeler que, alors j'utilise un mot, d'ailleurs pourquoi je l'utilise, la spiritualité chrétienne, parce que je ne veux pas dire religion, hein, dans ce cas-là, est une spiritualité du mouvement. Contrairement à beaucoup d'autres religions, y compris la religion chrétienne, qui a besoin d'un lieu fixe, hein. Déjà dans l'Ancien Testament, à une époque où culturellement c'était très important, la grandeur d'un Dieu, entre guillemets, quand je dis Dieu là, avec un petit D, se mesurait au temple qui lui était consacré. Plus le temple était grand, plus il y avait d'or, plus il y avait d'enluminure, plus le Dieu qui était honoré était grand. À cette époque-là, Dieu choisit une boîte avec des anneaux, des barres, on met ça sur le dos des gens et on marche avec dans le désert et à part. Déjà, il y avait cette idée que Dieu est mobile, qu'il est en mouvement parce qu'il est vivant, qu'on ne peut pas l'enfermer dans un bâtiment et qu'il n'est pas statique. Parce qu'il est vivant, il est toujours en mouvement. Et puis, bien sûr, ça continue à travers, avec les hauts et les bas. D'ailleurs, on voit comment le temple pour le peuple d'Israël a été une bénédiction, mais aussi un piège. Parce qu'après, on s'attachait aux pierres, à l'endroit, au lieu, et puis... Mais Jésus vient, et puis, par son œuvre, rend possible que le Saint-Esprit habite en nous, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous sommes mobiles, nous pouvons nous déplacer. Nous sommes en mouvement et nous sommes vivants. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'à aucun moment Jésus a donné la moindre instruction sur les formes. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait se retrouver le dimanche matin ou le samedi soir ou le mercredi. Il n'a jamais dit qu'il fallait un bâtiment avec des colonnes ou pas de colonnes, qu'il fallait des chaises ou pas des chaises, qu'il fallait être en long, en large, qu'il fallait être assis, qu'il fallait être debout. Aucune de ces choses sont mauvaises, aucune n'est bonne en soi. Selon l'endroit où on se trouve, la façon de faire dans la culture, dans le pays, on va adopter une ou l'autre. Mais c'est pas important parce que nous sommes voyageurs. Alors que vous savez, quand on voyage, on partage une partie des choses de l'endroit qu'on traverse. Vous traversez un pays où il pousse que ces légumes-là, vous mangez cela parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais dans votre voyage, vous arrivez ailleurs et puis il n'y a que cette façon-là de faire, vous l'adoptez parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et puis vous arrivez encore ailleurs, mais vous savez très bien que ni l'une ni l'autre, ni aucune de ces choses-là ne sont la vérité. Ou ne sont liées à Dieu dans le sens, il n'y a que comme ça qu'on peut le connaître ou le rencontrer. Nous sommes en voyage, et puis nous utilisons ce que nous trouvons à l'endroit où nous sommes, dans le moment où nous y sommes. Ce qui est normal, comme un voyageur. Mais je m'arrête pas là. Et pourtant, c'est la tendance naturelle chez tous les êtres humains, dans tous les pays, partout sur la planète. On veut s'installer. On veut s'accrocher. On veut planter nos racines. Probablement parce que depuis la perte du jardin d'Éden, on n'est plus en sécurité nulle part. Et on a l'impression que si on se fixe quelque part, on sera en sécurité. Lorsque les disciples se sont retrouvés sur la montagne avec Jésus lors de la transfiguration, premier réflexe de Pierre, dressons-là trois tentes. Puis on sait très bien ce qui se passe. Si on reste plus de 6 mois, on se dit, bon, les tentes, on pourrait quand même leur faire un petit tour en pierre, et puis on pourrait mettre des planches, et puis quelques tuiles dessus, hein. Et puis la génération d'après va dire, écoutez, ouais, bon, on pourrait monter un étage, et puis renforcer un peu, et mettre des portes et des fenêtres. C'est comme ça que ça se passe avec l'être humain, toujours. Dieu m'a parlé ici, alors on s'arrête ici, c'est ici la maison de Dieu, construisons quelque chose. Non. Dieu est partout, bien sûr, mais nous devons être en mouvement parce que nous sommes étrangers et voyageurs. Si on revient au texte que je vous ai lu, que je reprends, donc au verset 13, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il est dit, ils l'ont vu, en parlant de ce pays qui leur avait été promis, ils l'ont vu et salué. Le mot voir ici veut dire plus que juste voir, veut dire concevoir, visualiser. Vous savez, il y a des gens qui ont des facilités à visualiser les choses, d'autres moins, dans certains domaines. On habite à ce moment une très grande maison avec plein de niveaux, plein de couloirs, plein d'étages. La plupart des gens, quand je leur fais visiter, qu'on arrive de nouveau à la porte d'entrée, ils me disent « Ah, on est là !» Mais quand j'ai fait visiter à Thomas, avant que j'ouvre la dernière porte, il m'a dit « Ah là, on arrive à tel endroit !» Parce qu'il a cette capacité dans ce domaine-là de visualiser les choses. Donc, il avait le plan qui se traçait en 3D au fur et à mesure. Il y a des gens comme ça qui ont un cerveau un peu spécial. Et puis, pour lui, c'était simple, parce qu'après, j'aurais pu le laisser n'importe où dans la maison en lui disant, est-ce que tu peux aller à tel endroit? Il avait visualisé le plan. Donc, c'est tout simple. Pour des gens qui n'ont pas cette capacité-là, ils vont tourner en rond, s'arrêter, ils ne savent plus où ils sont. Hein. Voilà. C'est pareil dans le domaine spirituel, et c'est pour ça que on creuse les Écritures, qu'on médite, qu'on parle, qu'on partage, qu'on cherche à savoir. Parce que si je suis en route, mais je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, et je ne sais pas quelle est la route pour y aller, de toute façon, si je ne sais pas où je vais, je n'ai même pas besoin de chercher la route, alors forcément, tout est faux. Hein. Et puis du coup, on se dit, ouais, mais la vie chrétienne, ouais, bon, c'est pas passionnant, quoi. C'est quand même un peu ennuyeux. Alors, bon, on y va par devoir, on y va par crainte, parce que on voudrait quand même pas finir en enfer. On y va parce que ça fait bien, peut-être, dans une culture donnée. Hein. On y va parce que nos parents y allaient. Mais on n'est pas des gens qui se sont levés le matin en disant, aujourd'hui, il y a encore une étape, parce que c'est là-bas que je veux aller. Et puis, je sais à quoi ça ressemble. J'y ai pas été, mais je l'ai vu. Je le visualise. Et je parle pas ici de se représenter à quoi ressemble notre patrie céleste, mais on en connaît les caractéristiques. Et puis elles me font envie. C'est pour ça que je parle souvent de cette nostalgie du futur. Nostalgie d'une chose qu'on connaît pas, mais qui pourtant a en nous quelque chose qui nous y attire. Et qui, dans ma compréhension en tout cas, vient du fait que on a perdu quelque chose avec la chute. On avait un jardin où on était en sécurité. Imaginez Adam et Ève qui vivaient nus, donc sans défense, pas de vêtements. Et puis ils pouvaient n'importe où dans le jardin, quand ils étaient fatigués, s'allonger par terre et dormir. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Hein. Même s'il fait chaud, il faut un drap sur les pieds, il faut quelque chose dessus, il faut tout. On n'est pas en sécurité. Hein. Au-delà de, je ne parle pas de la pudeur ici, mais qui arrive à dormir nu comme ça n'importe où? Non, il faut des habits d'abord, puis il faut des choses qui protègent, et puis il faut des murs, on a peur. Mais Adam et Ève vivaient comme ça, on l'a perdu, on l'a jamais connu, mais ça reste au fond de nous. On aimerait retrouver cette sécurité, cette assurance que je suis dans les mains d'eux. Et pour nous, ça existe, mais c'est pas ici-bas. Par contre, on connaît celui qui peut la donner, et puis on vit avec lui jour après jour, mais il nous a invités à le rejoindre dans un endroit qui est mieux. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de Jean, très peu de temps avant de partir à la croix, de mourir, a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et puis comme il sait que c'est difficile à croire, il dit, « Si c'était pas vrai, je vous l'aurais pas dit. » Il veut dire, c'est pas juste comme ça, une petite phrase que je vous dis. « Je m'en vais vous préparer une place. » Et en tant qu'être humain, à partir du moment où nous naissons et puis où nous pouvons le rencontrer, nous sommes en route pour rejoindre cette place qu'il nous a préparée. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas l'endroit où on est aujourd'hui. Quand vous voyagez, si vous devez aller d'ici à quelque part, vous ne fermez pas les yeux pendant le voyage. Vous faites des étapes, vous vous arrêtez. Il y a un magnifique lac, on s'arrête, on en fait le tour, on apprend. Il y a un monument historique, on le visite. On apprend des choses, on les apprécie. Mais on n'oublie pas, on est en voyage. Et justement, on s'enrichit sur ce voyage parce que on va dans une direction. Donc, ils avaient vu et salué de loin. Et le mot saluer ici ne veut pas juste dire bonjour, mais normalement, c'est un mot dans la langue grec au départ, qui voulait dire prendre les gens dans ses bras. Et puis souvent, on sait que culturellement, c'était des choses qui duraient longtemps. C'est le mot qui est utilisé lorsque Paul dit adieu aux anciens d'Éphèse sur la plage, et puis que le bateau attend, et puis ça fait 6 heures qu'il dit au revoir, et ils sont encore là. Il se serre dans les bras. Paul, tu vas nous manquer, oui, toi. C'est ce mot-là qui est utilisé. Alors c'est paradoxal, parce que comment on peut faire ça avec quelque chose qui est loin? Mais ils les ont vus et embrassés de loin. Hein, et y a un paradoxe apparent, mais qui crée une tension, mais positive. Et c'est pour ça qu'un croyant, normalement, est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Regardez le vocabulaire de Paul. Le nombre de fois dans le Nouveau Testament qu'il dit « je cours ». Je cours. Hein. Je pense pas que Paul était spécialement quelqu'un qui aimait le marathon ou les courses. Il prend des images qui viennent du monde sportif, mais tout le temps, et même à la fin de sa vie, quand il commence à être plus âgé, il a vécu plus de galères que nous tous ici réunis ensemble. Hein, Et puis il dit encore, je cours. J'ai été saisi par Jésus-Christ, il dit aux Philippiens. Et je cours. J'ai vu, j'ai salué, j'ai embrassé, mais en même temps, c'est pas là, mais c'est là. Et ça fait que je suis pas avec une mentalité de sédentaire. Dressons là trois tentes, et puis fortifions les murs de la tente, et puis plantons un petit gazon, et une barrière autour du gazon, et on pourrait mettre un chien dans l'herbe, et puis on pourrait rajouter une tour, et rajouter une pièce, et puis agrandir le garage. Il n'y a rien de mal dans un sens. Mais, du coup, alors maintenant, puisque je suis ici, que je vais passer ma vie ici, et que mon but c'est de construire et fortifier mon surplace, où est la motivation quand je me lève le matin? Ben, on va repeindre la cuisine. Waouh, super! Mais la vie passe, et puis ça fait déjà 10 fois qu'on a repeint la cuisine. Ouais. Pas passionnant, hein. On va changer les meubles du salon. On va mettre le canapé ici. Oh, quelle aventure! Waouh! Chérie, prends ton casque colonial, ta machette, tes cordes, hein, prévois tout ce qu'il faut. Si je suis pas de retour dans 24 heures, appelle les pompiers. On va déplacer les meubles du salon. Ça, c'est, hein. Mais c'est ça dans la vie chrétienne. J'ai pas de but. Je vis. Bah, un jour j'irai au ciel, bien sûr, j'y crois. Jésus va revenir, j'y crois. Mais je suis pas en voyage, je suis en train de m'installer sur cette terre pour l'éternité. Alors, la motivation est pas là. Hein. Et puis, pendant ce temps, le péché, lui, est motivant par contre, parce qu'on est fait comme ça, on est plus attiré par le mal que par le bien. À partir du moment où je suis plus en mouvement vers un but, je passe mon temps à lutter contre mes mauvaises manies, mes mauvaises tendances, mes mauvaises façons de voir, mon péché, mais... Hein, je suis sûr que avant le cataclysme qui s'est passé au Japon, parce que c'est des êtres humains comme nous, c'était plein de gens dont le problème principal c'était le voisin a mis un portail plus grand que le nôtre. Ils ont changé leur voiture et puis elle fait 20 cm de plus que la nôtre. Et puis la voisine a encore mis un truc que j'ai pas. Et puis leur arbre fait de l'ombre dans mon jardin. Ils avaient ce genre de problème. Évidemment, c'est des êtres humains. Malheureusement, ils les ont plus aujourd'hui, parce que tout a changé. Tout d'un coup, le but c'est vivre encore un jour, retrouver quelqu'un qui est peut-être pas encore mort, savoir si demain on sera encore en vie, si on aura à manger, à boire, si la pluie qui va nous tomber dessus sera pas radioactive. Alors il va peut-être falloir quitter l'endroit, partir au sud, mais après je sais pas. Et tout d'un coup, tout change. Et pour nous, c'est pareil spirituellement. Si j'ai pas d'autre but que arranger ma maison, et je parle de façon figurée, bien sûr. Alors, mon principal problème, ça va être, un, trouver des motivations. Puis, il y en a pas des vraies, alors il faut les inventer. Et deux, lutter contre tout ce qui fait que, vu que j'ai pas une vraie motivation pour aller quelque part, il faut que je m'occupe, et la plupart des choses qui m'intéressent sont pas forcément les bonnes. Tant que David partait en guerre régulièrement, c'était un homme comme avant, comme après, hein. Mais il n'avait pas vraiment le temps de convoiter. Parce que quand on a passé 10 heures à découper des géants en tranches, on rentre à la maison, on prend une douche, on va dormir. Hein. Mais l'année où il a décidé de ne pas aller à la guerre, et puis il est resté chez lui, dans sa maison, il est passé de voyageur à sédentaire. Alors il s'ennuie, il tourne en rond, et puis il monte sur sa terrasse, et puis il ne sait toujours pas quoi faire, parce que dans l'âme, c'est un guerrier, c'est un voyageur. Et puis là, il est coincé dans sa maison avec le luxe, tout ce qu'il faut. Et pourtant, hein, il a un harem avec des femmes. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Mais là, il aperçoit derrière la voisine. En plus, c'est la femme d'un ami qui, lui, est en train de se battre. Et elle prend son bain. Et puis, elle est belle. Puis d'un coup, elle devient la seule femme désirable dans tout le royaume. Et puis, il résiste pas. Hein. Et on est tous comme ça. À partir du moment où je suis plus en mouvement, où je vais plus quelque part, où ma vie est pas passionnante parce que je suis en route, avec aussi tous les problèmes, l'insécurité que ça crée, bien sûr, hein. Alors, je passe mon temps à lutter contre, il faut pas que j'aille sur la terrasse, il faut pas que j'aille sur la terrasse, il faut pas que j'aille sur la terrasse. Hein? Mais on est tous comme ça. Alors, il y a ceux qui résistent un certain temps, ceux qui, faut pas que j'aille sur la terrasse. Qui résiste même pas. Puisque de toute façon, je vais le faire, autant y aller vite, hein. Ouais. Mais j'en ai vu qui riaient plus que d'autres. Je note. J'ai les noms. D'accord. Mais ils avaient vu saluer de loin. Et puis, on n'arrivera pas au bout du texte, vous n'avouez pas, mais on va avancer un petit peu. Hein. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur terre. Et le mot reconnu ici est très très important. C'est le mot qui a donné en français homologué, homologué ou en grec, hein, qui veut dire dire la même chose au départ. Et donc, reconnaître qu'une chose est ce qu'elle est. Ils avaient reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs. On l'est tous. Même l'être humain qui vit dans la plus grande sécurité matérielle sur Terre et qui s'imagine bêtement « je suis en sécurité, tout est assuré, j'ai des gardes, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des médecins. » Et toi aussi, tu es voyageur. Toi aussi, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et là, tout d'un coup, tu vas t'apercevoir « oh, je n'étais pas prêt pour ce voyage. Hein. » Donc on l'est tous, mais la question c'est, est-ce que je l'ai reconnu? Est-ce que j'ai homologué ma vie comme la vie d'un voyageur et d'un étranger? Ben, en général, pas trop. Hein. À des petits moments, ouais, quand tout d'un coup il se passe quelque chose qui nous fait réagir parce que hein, quelqu'un proche de nous, pouf, ça tombe dessus, hein. Une grosse difficulté qui arrive, une maladie, un être cher qui part alors que c'est, on l'attendait pas, etc. Et là, tout d'un coup, on réalise, mais il y a rien de sûr, je sais pas où je... Mais très rapidement, on monte un peu plus haut les murs, on remet les barrières, on se remet à l'intérieur. Et puis surtout, je veux pas penser à ça, parce que ça me fait peur. Demain matin, il va encore falloir faire le sac, et puis peut-être les habits sont encore humides, et puis il va falloir reprendre la route. Mais quand c'est que je vais m'arrêter? Quand c'est que je vais m'installer? Où c'est que je vais enfin pouvoir m'asseoir en disant « on ne bouge plus d'ici ». Ben ça, c'est quand on aura passé la ligne d'arrivée, puis c'est pas encore. Mais c'est peut-être très bientôt, on ne sait pas. Pour certains d'entre nous, ça peut être dans 10 secondes, dans 10 minutes, dans 3 jours, dans une semaine, ou dans plus longtemps. Alors, ils avaient reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent clairement, manifestent, révèlent qu'ils recherchent, et le mot rechercher ici veut dire désirer ardemment, une autre patrie. Et on parle beaucoup, on a parlé un peu ces derniers temps sur comment on pourrait témoigner aux autres. Si je vis comme ça, la question ne se pose pas. Quand vous rencontrez un nomade dans nos sociétés occidentales, vous le savez, ça se voit, ça pose des questions, ça interroge, hein. Alors que tout le monde a qu'un but, c'est se fixer, s'enraciner, se protéger, se sédentariser. Tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui passe là, et puis il a tout sur son dos. Et puis, ben, tu fais quoi? Tu es en vacances? Non, je suis en voyage. Ah bon? Tu vas où? Là-bas. Ah! Et depuis longtemps? Ouais, un certain temps. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'au bout. Tu es bizarre, toi. Tu es pas comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hein? Ça interpelle. On n'a plus besoin de choses artificielles pour témoigner de notre foi. Notre vie en témoigne parce que dans ce monde où tout le monde, encore une fois, veut rester sur place, dans ses idées, dans ses façons de faire, dans plein de choses, tout d'un coup, on voit des gens qui, hop, non seulement ils se déplacent, mais ils transportent leur Dieu avec eux. Des temples sur pattes. Ça interpelle parce qu'on nous dit pour rencontrer Dieu il faut aller à l'église le dimanche dans ce bâtiment ou dans celui-là où il faut faire comme ci ou comme ça, et c'est toujours la question de l'être humain comme la femme samaritaine, faut-il adorer sur cette montagne ou sur celle-là? Non, Dieu est partout, mais il est avant tout le Dieu des voyageurs, le Dieu des gens en mouvement, et vous allez le rencontrer tous les jours sur votre route, sur le voyage, dans des moments agréables, parce qu'il y a des pauses quand même, hein, il faut se reposer sur la route, il y a des moments où on s'arrête, mais c'est pas pareil de s'arrêter en sachant, voilà, on a une semaine là pour se reposer, pour réparer la tendinite, pour refaire la semelle des chaussures, et puis après, on aura réparé le matériel, on rampe pas que tout, on met sur le dos et on repart, ou finalement, s'arrêter, hein, pour dire, j'ai enfin trouvé l'endroit. Alors, il y avait plein d'autres choses à voir, mais on s'arrête là, c'est trop long. Pensons juste à tout ça, et puis voyons comment le Saint-Esprit peut l'appliquer à nos vies. avec toutes les caractéristiques positives du voyageur spirituellement. Et puis les conséquences que ça peut avoir. Et vous allez être surpris. Moi, je le sais, pourtant, je passe tellement souvent à côté. Dès que je retrouve cette mentalité-là, les problèmes avec lesquels je me bats tous les jours disparaissent. J'en ai d'autres, hein. Mais c'est plus les mêmes. C'est des vrais. C'est des bons. Parce qu'ils sont liés au chemin, à la route, au but, au mouvement. C'est l'épine dans le pied à la fin de la journée. Ben oui, on marche, on se plante une épine dans les pieds. C'est les pieds sales à la fin de la journée. Ben oui, on a marché, on a transpiré, il faut se doucher. Mais c'est des vrais problèmes liés à la vraie vie. C'est plus des faux problèmes parce que je suis là et puis... Est-ce que je pourrais trouver... Et puis là, de suite, bien sûr, la première chose, c'est... Hein, mon voisin. Il n'est pas comme il faudrait. Hein. Donc, Seigneur, merci parce que... Même si ça ne nous plaît pas toujours, tu as choisi de faire de nous des voyageurs, mais des voyageurs qui sont en route pour te rejoindre. Et en même temps, tu es celui qui voyage avec nous. Alors ça aussi, ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. Te demandons que tu nous aides à voir, à embrasser cette patrie céleste où tu nous attends, où tu nous as préparé une place. Et en même temps, d'être conscient de l'endroit où nous posons les pieds. De ce pays que nous traversons, et des hommes et des femmes qui y habitent, qui te cherchent ou qui te connaissent, qui ont des besoins, et que nous pouvons inviter à ce voyage, accompagner, avec qui nous pouvons partager une halte avant de reprendre la route. Merci de toucher nos cœurs ce matin, d'inscrire ces choses en nous, et qu'elles puissent nous mettre en mouvement. Chacun où nous sommes, chacun... sur la partie du trajet où nous en sommes, que nous puissions encore une fois, comme le fils prodigue, dire « Je me lèverai et j'irai » et reprendre la route vers ta maison qui est aussi la nôtre, vers cet endroit d'intimité que tu nous as préparé et où nous serons vraiment en sécurité, vraiment pleinement ce que nous devons être. Merci de faire tout ce travail en nous, Seigneur Dieu. Amen.